personne-là, thérapeutique, moi qui se présentera peut-être un peu mieux que je ne le fais, parce que ce n'est pas ma spécialité, il était important au cours de ces journées, il y a des sujets qu'on connaît en tant qu'archéologue, ou en tant que médiateur, archéologue-médiateur, il y a des sujets qu'on maîtrise, et puis il y avait peut-être un sujet qu'on maîtrisait moins bien, qui était l'enfant, le développement de l'enfant dans les grandes lignes. Et finalement, on s'est dit que ce serait peut-être bien qu'on se pose la question qu'on aborde cette question.
Je vous remercie beaucoup pour cette invitation et je dois dire que j'ai pas pu me libérer pour venir plus tôt aux journées. Il y a peut-être aussi une diffusion un peu confidentielle de la qualité de ces journées, je trouve, hein, parce que j'ai été en deux conférences ce matin, complètement, j'ai un vertige terrible, existentiel, à découvrir que des petits os de rien du tout peuvent nous amener à réfléchir aussi loin. Voilà, bon. Donc je suis pédopsychiatre, je reçois des enfants depuis de longues années, et la question de la mort et de ses représentations est je dirais pas au centre de ma pratique, c'est plutôt des troubles du comportement en général qui motivent les consultations, mais chaque année, je reçois plusieurs enfants qui découvrent à un âge variable, mais en général avant 8 ans, la réalité de la mort à travers la perte d'un animal, d'un être cher. Alors il y a eu les effets des attentats et toute cette médiatisation, et qui se retrouvent confrontés à un choc terrible qui bouleverse son sommeil, ses relations, ses peurs. Enfin, c'est quelque chose de qui peut être terrifiant. Et je me sers un peu de cette expérience-là, de rencontre de ces enfants, pour vous parler de à partir de quand, finalement. C'est peut-être... Donc je vais me concentrer vraiment sur le petit enfant, puisque je crois qu'à partir du moment où l'enfant a un accès au langage, à l'écriture, à la symbolisation, après 7-8 ans, on peut avoir un abord de toutes sortes de médias, même des fouilles, des tombes, des squelettes. Ça peut apporter un éclairage sans forcément mettre une angoisse terrible. Alors qu'un tout petit... particulièrement, alors avant le langage, c'est encore plus complexe, mais enfin, en tout cas, l'angoisse, j'allais dire, métaphysique, humaine, ontologique qu'on a tous par rapport à la mort, les enfants la prennent de face, sans savoir de quoi il s'agit. Peut-être je pourrais dire que le rapport à la mort et au traumatisme de la vie en arrivant, on le connaît tous, avec un être... Imaginez un être qui vit dans l'eau, qui a une température constante, qui n'a jamais faim, qui n'a forcément jamais soif, qui entend tout avec un amortissement extraordinaire, qui n'a aucune pression, qui ne peut pas bouger, vraiment. Des boules à respirer, en ayant été comprimé dans la filière... enfin, par là où il faut sortir, sauf si c'est une péridurale et une césarienne, mais là, il y a d'autres problèmes qui apparaissent. Finalement, la violence de la naissance avec un pied dans la vie, un pied dans la mort, avec une mort de l'état utérin aquatique et la naissance à la vie aérienne, je pense que le corps en garde quelque chose. Indubitablement, et les tout petits bébés, il y en a certains que j'ai rencontrés, qui n'arrivaient pas à vivre parce qu'ils avaient mal passé ce choc, alors qu'ils n'avaient pas de danger autre autour d'eux. Donc je pense vraiment, sans que ce soit de la magie ou quelque chose d'un peu fou, que on a tous au fond de nous, de par cette naissance, quelque chose qui nous prédispose à comprendre quelque chose de la mort. Il y a également une légende qui est très belle, que je voudrais partager avec vous, qui s'appelle la légende du signe de l'ange, c'est-à-dire on raconte que les bébés hurlent à la naissance, leur rage de ce que, en fait, l'âme arrive en ayant la connaissance de la vie, de la mort, de tout ce qu'il faut savoir, et l'ange, pour qu'il puisse vivre son enfance, lui efface toute sa mémoire. Par un signe sur la bouche. Alors en particulier ceux qui ont ce petit signe-là ont été très gâtés. parce qu'on leur a, l'ange leur a fait tout oublier, vraiment bien, pour qu'ils puissent avoir une belle enfance, qu'ils puissent bien rêver que la vie est éternelle et que tout va bien. Parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement. C'est qu'un enfant, quand on l'accueille dans une famille, on veut lui faire croire que tout va bien, que la vie va être éternelle, que le paradis est sur terre. Et ben, c'est pas si simple que ça. Hein. C'est pas si simple que ça, parce qu'il perçoit bien que c'est pas tout à fait ça. Et pour construire une personnalité, je vais peut-être prendre l'exemple du squelette, parce qu'on est là sur un sujet qu'on peut partager. Donc les os seraient, et l'étude scientifique des os serait du côté du réel, c'est-à-dire on a quelque chose dans les mains et on essaie de l'étudier au plus proche. La dimension imaginaire, ça serait à partir des constatations scientifiques, et c'est ça le vertige qui m'a pris lors de la dernière conférence, c'est qu'on peut faire une histoire des peuples, une histoire des civilisations, on peut se raconter des histoires. Alors effectivement, on ne sait pas si c'est la mer, la tente, tout ça, mais on peut se faire des histoires, on peut commencer à imaginer des choses, et donc c'est un peu vertigineux, parce que c'est quand même pas banal de prendre je vais vraiment faire très, très basique, un fémur et d'en sortir une histoire de peuple méditerranéen, enfin bon, c'est extraordinaire, enfin je trouve que ça me fait rêver. Et le troisième niveau dans la personnalité, qui s'appelle le niveau symbolique, c'est après, quand on sait tout ça, qu'est-ce qu'on va faire de ces corps? Est-ce qu'on va faire justement une inhumation? Est-ce qu'on les met dans des musées? Qu'est-ce que ça représente pour notre intelligence et notre affectif d'avoir ces restes humains? Est-ce que c'est des humains? Est-ce que c'est des choses? Voilà, tout ça c'est le niveau symbolique. Je vous raconte un peu, c'était des choses très simplifiées, mais pour vous montrer un petit peu comment je vois les choses de la vie. Donc vous avez ces trois pieds sur lesquels on marche tous, psychiquement, pour se construire. Et le petit enfant, au début, ne peut pas avoir accès aux trois pieds d'emblée. Il n'a que le réel. Il dépend entièrement de sa mère ou de quelqu'un. Il ne peut pas vivre tout seul et il faut que petit à petit, il se fasse sa place, qu'il découvre la pesanteur qu'il va vaincre en marchant, le langage qui va se développer par des phonèmes, des petits cris et qui va faire des discours, enfin bon, tout ça, ça se met en place et l'imaginaire apparaît. L'imaginaire, il raconte des histoires, il peut comprendre des histoires, il peut comprendre des choses, il se représente le monde. Et arrive ensuite la dimension symbolique où justement les choses ont différents niveaux, il n'y a pas qu'un niveau, il y a des choses complexes, ça veut dire quelque chose, Et je crois que cette définition du symbolique ne peut apparaître qu'après la lecture et l'écriture, enfin classiquement, hein, je ne parle pas des cas pathologiques, après la lecture et l'écriture, et donc la conscience de la mort telle qu'on l'a en tant qu'adulte apparaît chez l'enfant autour de 7-8 ans. Je pense que c'est vers là, 8 ans, on considère en général qu'on peut vraiment, un enfant peut prendre la mesure réel, imaginaire et symbolique de la mort. Peu. Je ne dis pas tous, hein. Il y en a aussi qui sont très protégés longtemps. Et ça peut faire même des adultes qui n'ont pas réfléchi tout ça parce que c'est une protection, hein. Je crois quand même que le vertige de ce savoir mortel, de l'accepter et de bien vivre sa vie, c'est quand même quelque chose qui est complexe. Donc les petits-enfants, j'entends avant 8 ans, hein, quand je parle de ça. Et je me suis proposé d'agrémenter mon propos de quelques photos. Alors elles sont peut-être pas dans des PowerPoint aussi bien faits que les collègues, mais en tout cas c'est des images que vous allez certainement reconnaître. Alors, je sais pas où c'est. C'est dans Bibrac, dans ça. Non, c'est pas celui-là. Alors, où est-ce que ça peut être? C'est celui-là? C'est au-dessus? Voilà. Donc, je me suis amusé à récupérer des images que vous allez, je pense, reconnaître. Ah, F5 tout en haut. Voilà. Donc là, vous reconnaissez, c'est Baba, l'histoire de Baba. Ou dans c'est sur deux pages. Donc la première page que je n'ai pas montrée, c'est Babar sur le dos de sa maman qui se promène dans la savane. Et il y a un chasseur qui arrive, qui est embusqué. Et donc là, on a la découverte de la mort pour Babar. Alors c'est évidemment la mort la plus terrible, c'est sa maman. Et ça développe chez lui quelque chose qui se développe chez les enfants, c'est le mouvement. Donc il court. Je ne vous ai pas pris tout le livre de Babar, hein, je vous le raconte. J'aurais bien aimé, hein, parce que franchement, je l'adore ce livre, mais bon. Voilà, donc vous le représentez si vous l'avez lu, on vous l'a lu. Je pense que vous vous rappelez cette image où Babar court et va dans la ville. Hein, voilà, il va dans la ville. Donc ça aussi, par rapport à la découverte de la mort, qui chez un enfant peut se faire parfois par un petit animal. Hein, c'est parfois la première conscience du lien affectif avec la perte. Et vous avez des effondrements dépressifs vrais à la mort d'un poisson rouge, d'un chat, d'un chien, d'un cochon d'Inde, d'un cobaye, enfin, voilà, tout peut arriver. Y compris chez certains adultes qui peuvent se déprimer quand ils perdent un animal, gravement et très sévèrement. Ça, je rencontre des gens, des adultes aussi comme ça. Donc, le support affectif et la découverte de la perte de l'objet d'amour, enfin de ça, là, il est, donc c'est une histoire pour petits-enfants, qui tout de suite nous met sur la chose la plus terrible qui soit. Hein, c'est de perdre. Parce que, en général, les enfants qui découvrent la mort, une des symptomatologies autour de cette découverte, qui perturbe leur vie, je vous ai dit gravement parfois, c'est la peur de perdre des parents. Ils ne peuvent plus les quitter, ils ne peuvent plus aller à l'école, ils ne peuvent plus dormir, et voilà, parce qu'ils ont peur. Ils découvrent qu'effectivement, ils comprennent la chose principale, mais qu'on ne peut pas expliquer aux enfants comme ça, oui, je partirai avant toi, dans le meilleur des cas, en tant que parent. Et bon, là, dans les livres pour enfants, on leur met la gomme tout de suite, il n'a déjà pas de papa, on ne sait pas qui est son papa, et il n'a plus de maman. Mais alors lui, il a la chance de rencontrer la vieille dame. Et oui ! Bravo, vous suivez, c'est bien. Donc, la vieille dame, et la vieille dame, il faut la quitter. Et il y a cette scène que j'aime tellement où donc la vieille dame, seule sur son balcon, se demande « Quand reverrai-je mon petit Babar ?» Et là, vous avez la différence, et je peux vous parler de quelque chose d'autre au niveau des enfants, c'est la différence entre la séparation, l'absence et la mort. Parce que l'un des symptômes que peuvent présenter certains enfants petits, mais qui n'est pas c'est un symptôme au sens signe, c'est pas une maladie, c'est quand on les dépose à la crèche, comme ils n'ont pas la symbolisation du temps, c'est un équivalent de mort et de perte définitive de la maman. Et c'est pour ça qu'il faut ces séances de temps où on parle du temps où les mamans viennent pour montrer qu'elles viennent et qu'elles partent. Parce que le petit, tout petit, avant 3 ans, il ne peut pas faire la différence entre une séparation, une absence et la mort. Donc ça aussi, ça nous permet de... C'est pas des caprices, forcément, quand un enfant ne peut pas dormir tout seul la nuit, c'est qu'il ne sait pas s'il va revoir sa maman ou son papa le matin. Parce que c'est compliqué de construire son rapport, ce que je vous ai dit, l'imaginaire, le symbolique, le réel, c'est un trépied qui se construit très progressivement, chacun à sa longueur de pied des trois, mais pour que ça marche et que ça avance, il faut les trois. Donc là... Donc dans ce livre, mine de rien, il est extrêmement intéressant pour travailler la question de la séparation non définitive avec la vieille dame et la mère définitive. Et également le transfert que normalement la vie nous apprend, c'est qu'on perd des gens qu'on aime, mais on en a d'autres et qu'il faut faire le passage. Bon, je simplifie un peu, hein. Je fais comme la collègue tout à l'heure, je simplifie beaucoup, c'est des notions complexes au niveau psychologique. Alors il y a un autre... voilà. Alors ça, c'est une image qui s'est...
Elle n'est pas dans le film, c'est une image.
Voilà ! Elle n'est pas dans le film, parce que c'est ce que le film ne montre pas. Parce que le film ne peut pas, en 48, montrer ça. Maintenant, évidemment, elle est horrible, cette image. Je voulais vous mettre... Alors, je vais tout vous raconter. Je voulais vous mettre le petit extrait de la mort de Bambi. Mais franchement, je l'ai regardé, j'ai pleuré, j'ai dit non, je vais pas les faire pleurer. Parce que alors je me suis dit, je mets ça, au moins là on pourra discuter que ça n'existe pas. C'est pas la vraie histoire. Mais n'empêche que Bambi, c'est pareil. C'est épouvantable. Et alors, en général, les enfants le voient, ne le voient pas, l'horrible, parce qu'il y a une espèce de scotome, quelque chose qui fait qu'on... Et c'est après, oh, mais c'est pas possible cette scène. La musique, la lumière, enfin c'est un chef-d'œuvre, hein, mais terrible, terrible. Voilà, bon. Bambi raconte aussi une histoire. Et alors le papa qui vient, hein, et oui, tu reverras plus tard. Alors il dit les choses comme il faut les dire, tu reverras plus ta maman. Viens. Voilà. Il n'y a pas. Ça aussi, je crois qu'il faut faire très très attention dans ce que. Je parle toujours des tout petits, hein, qui n'ont pas encore la symbolique. Les histoires de partir au ciel, d'aller dans la terre, tout ça, c'est du réel pour eux. Donc ils peuvent s'imaginer, il y en a qui m'ont dit, mais grand-père, quand il va tomber, il va se faire mal du ciel. C'est ça. Et puis l'autre qui me dit, mais dans la terre, mais il ne peut pas manger, il ne peut pas respirer, mais c'est horrible, il se réveille en cauchemar la nuit. Donc il faut faire attention à ce qu'on raconte. Donc je crois que la bonne façon de dire, c'est on la reverra plus comme ça, son corps ne fonctionne plus, mais par contre dans la tête, on peut y penser toujours. Il donne une forme d'immortalité de la pensée par rapport à. Mais enfin, on ne va pas appeler ça un enfant, l'immortalité, mais tu peux y penser, on a des photos, voilà, on a des choses comme ça. Donc voilà, là, je trouvais ça extraordinaire qu'il y ait un petit sagouin qui se soit permis de faire l'image qui n'a jamais été dans le film. Bravo, vous suivez, c'est bien. Bon, alors après, il y a l'autre, c'est le roi lion. Alors le roi lion, alors là, ça, le roi lion, c'est quand même, c'est ça aussi, hein. Alors ça, c'est déjà, donc là, il a plus de 8 ans. Là, on le voit mourir pour de vrai. On voit la trahison de l'oncle qui veut hériter et qui tue donc son frère et qui tue psychiquement son neveu en lui racontant qu'il est coupable de la mort de son père. Parce que ça, c'est un autre élément de la vie, c'est que les enfants, quand ils comprennent la mort, quand ils commencent à comprendre des trucs autour de ça, ils sont responsables de ce qui s'est passé. Ils sont responsables de... Il se raconte dans une espèce de pensée magique, parce qu'ils sont capables de penser que c'est un âge où on croit encore au Père Noël donc, et au lapin de Pâques, donc c'est encore très magique la vie. Et donc il serait responsable de ce qui s'est passé, ou responsable de la tristesse, enfin bon, il faut faire attention. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, que là il y a une symbolisation du nuage du Père qui parle dans le ciel, c'est qu'il a introjecté en lui-même son image paternelle, ce que j'appelle moi l'éternité du souvenir, hein. Tant qu'on est vivant, on se souvient et on fait vivre les gens, même qu'ils sont partis. Alors là, c'est des petits dessins que je trouve, enfin des choses à la fois belles et terribles. C'est alors le côté artistique auquel certains enfants peuvent être sensibles. En fait, j'ai choisi les accidents parce que les enfants, c'est surtout les accidents qui, heureusement, qui est mort. Donc là, c'est la mort qui organise l'accident avec les belles petites fleurs. Et vous avez aussi la mort qui fait semblant de sauver le noyé, mais qui en fait lui offre pas de quoi se sauver. Bon voilà, je voulais un petit peu mettre des petits. Mais cet humour noir n'est pas accessible à des petits, quoi. L'humour, c'est quelque chose de symbolique. C'est justement de mettre des sens différents aux choses. Donc, on ne peut pas faire de blague à un petit avant qu'il ait vraiment sa construction symbolique des choses. Pour ça, l'humour avant 7-8 ans, c'est en général pas un vrai humour, c'est plutôt du genre blague quand les enfants font de l'humour. L'humour, c'est quand même pouvoir se représenter dans une situation auquel on ne veut pas être et d'en rire, quoi. Donc c'est délicat. Enfin bon, ça nous mènerait trop loin, mais... Alors là, c'est un auteur moderne, parce que je voulais quand même aussi trouver quelque chose de... C'est Claude Ponty. Et là, c'est l'accident de voiture. Donc, c'est du Claude Ponty. Donc c'est l'arbre qui se met au milieu de la route et qui fait qu'il va y avoir un accident. Donc c'est l'accident quand même assez terrible. Tout est détruit. Et alors les parents volent dans le ciel. Ils volent. Et la petite fille qui s'appelle Isée voit ses parents partir en haut, et alors elle se dit, à force de monter si haut, ils vont être morts. Et donc la dépression de l'enfance, c'est réaliser la perte de gens aimés, la tête qui se baisse, c'est effectivement ça, c'est prendre un coup sur la tête. Le jour où l'enfant découvre que la mort existe, c'est quand même une blessure épouvantable pour lui. Alors là, c'est le chagrin du parent qui perd son parent. Donc ça, c'est la grand-mère qui est morte, c'est une autre histoire. Et alors je trouve que ce livre qui s'appelle L'arbre sans fin, quand il y a une problématique de mort pour un petit, il est extraordinaire, parce que justement il s'ouvre un peu sur cette histoire-là. C'est la petite fille qui part avec son papa dans la forêt faire des trucs sympas, qui rentre, la maman pleure, la grand-mère est morte. Et alors qu'est-ce qui se passe? Donc tout le monde s'attriste, le père aussi, on le voit. Et alors, il y a la symbolisation du rite funéraire, qui est d'une poésie, je trouve, extraordinaire, puisqu'on la met dans un cocon, et qu'on la porte, et que le cocon va s'envoler. Donc là, on a des représentations, disons, supportables, je pense, pour un enfant, d'imaginer que c'est complètement, pas humain, mais très très humain. Voilà, c'est pas des humains, c'est des petits animaux, et je pense que c'est très très humain. Alors la réaction de cette petite Hippolène après le passage de la grand-mère, c'est quoi? C'est qu'elle se recroqueville donc avec ses joujoux, mais qui ne l'intéresse plus. C'est la position dépressive, c'est-à-dire se déprimer. Et elle se transforme en goutte. Elle tombe, et elle s'écrase au sol. Et alors, dans cette histoire, qui est une histoire finalement de deuil, vous avez au fond cette petite... elle va être dans un cocon après, et elle va y rester longtemps, 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 puis un jour elle se réveille. Donc c'est le temps où la tristesse s'installe, mais maturative, parce qu'elle va maturer, et après elle va affronter un horrible monstre qu'elle va vaincre, et puis elle va continuer sa vie. Donc on peut... toute façon, je crois que on peut atténuer le choc pour les enfants, on peut leur éviter... toujours en pensant qu'ils prennent tout à la lettre, le réel, donc faire attention à ce qu'on raconte. Il vaut mieux dire des choses vraies pour qu'après ils puissent s'en servir que des croyances ou des... Je sais pas, il faut être prudent, je crois, avec ça, parce qu'il y a le deuil de la mort qui rentre dans la vie de l'enfant où il comprend, mais aussi, si le parent lui a raconté trop de fables ou trop de choses bizarres, après il perdra confiance dans le parent qui lui a raconté ça dans un moment si catastrophique pour lui. Donc il faut faire très très attention à dire des choses en général très basiques. Le corps fonctionne plus, on pourra plus le voir, mais voilà. Donc il faut ou l'histoire du voyage, il reviendra plus jamais. C'est pas faux. C'est pas faux de parler de quelqu'un qui est parti, qui reviendra jamais. Vous voyez, c'est des choses. Il faut être prudent. Je crois que il y a par exemple un papa qui voulait bien faire, qui a montré un super cimetière. Qui avait été réhabilité, enfin un truc super, c'était magnifique, mais les gamins ils sont rentrés, ils n'ont pas dormi parce qu'ils s'étouffaient dans la terre dans laquelle on avait, il y a eu des explications autour de ça, ils étaient trop petits pour comprendre, quoi. Ils étaient trop petits. Alors il y a un autre livre de Claude Ponty que je trouve assez admirable pour parler de ce qu'un enfant peut supporter, c'est Le cimetière. Là c'est une image d'un cimetière où ça raconte que il y a dans le cimetière, on met un endroit où on met ce que la personne a le plus aimé. Alors je vous ai mis des détails. Vous avez celui qui aimait les champignons. Il a un coin où on lui met des champignons. Vous avez celui qui aimait être seul. On lui a mis un cyprès, il est tout seul. Celui qui aimait les enfants, derrière, il y a des toboggans. Celui qui aimait les oiseaux et l'eau. Celui qui aimait les œufs. Plus que tout. Voilà, celui qui aimait la nature et celui qui aimait les livres. Donc je crois que parfois des petits éléments de réel comme ça autour de la conscience de la mort peut aider. Voilà, puis celui qui aimait le thé, on l'a mis prendre le thé. C'est la grand-mère qui aimait trop prendre le thé tous les jours à 5 heures. Ben voilà, on l'a fait un petit. Donc c'est aussi garder du mort, quelque chose qui permet d'avoir du plaisir de vivre, quoi. Il faut garder cet équilibre-là, qui est de la philosophie, en fait. Hein. Être conscient qu'on est mortel, mais vivre bien. Quand on le dit comme ça, c'est plus compliqué. Bon, alors, ça ne veut plus avancer. Si. Ah, merde, c'est fini déjà? Non, c'est pas possible. Hein. F5. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait une fausse manœuvre, ça m'arrive quand même. On en fait un petit retour. Il me semble que j'avais d'autres choses. Non, bah, c'est fini. Donc voilà. Donc non, parce que j'avais beaucoup de possibilités. Je me suis dit, je vais quand même sélectionner parce que le temps n'était pas très long. Voilà, je voulais juste vous dire que j'ai aussi rencontré, peut-être pour comprendre comment les enfants s'arrangent avec cette question de la mort, rencontré un garçon qui avait eu, qui était venu parce qu'il était tout d'un coup après la mort de son oncle, il était plus sage du tout, il n'écoutait plus à l'école, il faisait que des blagues, enfin, il était infernal à l'école alors qu'il avait été plutôt un gamin très 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 sage. Et donc il était justement à cette époque charnière, il avait 7 ans, entre 6 et 8 ans là où, donc il a perdu un oncle qu'il aimait beaucoup avec qui il faisait beaucoup de choses. Et donc ça a déclenché ce qu'on appelle une crise un peu hypomane, c'est-à-dire une espèce d'énergie de vie qui prend tout plutôt que de céder à la tristesse de la perte. Et donc, cette tristesse sortait dans les insomnies qu'il avait la nuit, mais c'était parce qu'il voulait jouer, qu'il voulait pas se coucher, enfin tout ça. Et il avait la deuxième consultation, il est venu me voir, il m'a amené son petit sac doudou. Qu'est-ce que c'est que ce sac doudou? Ça, c'est le canif de mon oncle. Ça, c'est les lunettes de soleil de mon oncle. Ça, c'est le truc. Il avait pris avec lui, il m'avait redéfini le doudou. Le doudou, c'est ce qui permet de garder près de soi la maman ou la maison. Il avait fait le doudou de son oncle. Donc, je trouvais qu'il y avait une inventivité là, extraordinaire. Alors, ce qui était embêtant, c'est qu'il voulait le traîner partout. Alors, j'ai expliqué au papa que j'ai vu que vraiment, il fallait le laisser faire, qu'un jour, il le prendrait plus. Et puis effectivement, il a fait quelques mois, les troubles du comportement sont redescendus et on a parlé ensemble d'un tas de choses, mais y compris de qu'est-ce qu'on devient après la mort et tout ça. Et c'est des choses que, après, quand il y a un deuil dans une famille, l'enfant n'arrive pas à le parler à ses parents pour ne pas leur faire de peine. Et donc, c'est là où le tiers est utile pour... voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'il y a ce trépied, donc voilà, c'est ça. Il faut faire attention toujours au réel et que, autant... l'os en question, le squelette, ça devient maintenant très drôle avec Halloween, tout ça. Mais il y a aussi toute une symbolisation qui ne se fait pas, je trouve, hein, pour les plus grands, avec ces histoires de mort-vivant, de trucs comme ça. Là, il y a tout un tas de... Et puis ces jeux où on meurt et où on ressuscite immédiatement, tout ça. C'est pas forcément une symbolisation active de la mort, je dirais. Hein, toutes ces défenses, c'est des défenses en fait. On reste tous, je crois. Alors vous avez un rapport, je crois, très symbolisé puisque vous êtes des professionnels autour de ces questions. Mais il y a plein de gens qui n'arrivent pas à mettre du sens à cette question qui n'en a pas. Pourquoi? Voilà. Ben, je vous remercie et j'attends vos questions.